Bonjour, bienvenue une nouvelle fois dans mon atelier, ici à Brétigny-sur-Orge.
Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Mier et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Dans ce deuxième épisode avec Adrien Jaminet, facteur de cuivre spécialisé en trompette, nous parlons de l'esprit start-up dans l'artisanat d'art, du test and learn et du rapport entre modernité et savoir-faire ancien. On aborde aussi le pouvoir du Made in France, l'importance des relations et du réseau pour atteindre cet objectif du local. Adrien et moi partageons la même vision de l'artisan entrepreneur et vous entendrez que nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Belle écoute!
Bonjour Adrien et merci de m'accueillir dans ton atelier. Adrien, si je ne me trompe pas et si je ne fais pas d'erreur, tu es facteur de cuivre spécialisé dans la trompette et luthier.
Complètement, je suis donc facteur. C'est rigolo parce qu'en t'attendant tout à l'heure, on a préparé un poste avec notre facteur et du coup j'ai pris une photo avec mon facteur pour faire les deux meilleurs facteurs de Brétigny-sur-Orge qui sera bientôt sur les réseaux sociaux. Donc je suis facteur de cuivre et non pas à la poste. Et évidemment luthier, donc la facture instrumentale c'est le fait de fabriquer des instruments. Et luthier, c'est quand on répare.
Dans le premier épisode, on se posait fortement la question quelle est la différence entre les deux. Et je pense que j'ai vu ton facteur passer.
Ah bah peut-être.
Voilà, donc je vais voir cette resta bientôt sur les réseaux. Adrien, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec ce métier de facteur ?
C'est complètement par hasard que je suis tombé là-dedans. Comme tout le monde, on fait un stage de troisième. Moi, je voulais faire musicien. On en a parlé dans l'épisode précédent où moi, ça me faisait rêver d'être à la garde républicaine, ce genre de choses. Mais on pouvait pas faire un stage avec des musiciens. Je suis allé dans un atelier rue de Rome, sans trop savoir où ça allait me mener, pour découvrir ce métier. Et en fait, je me suis tombé un peu amoureux de cette activité-là, de comprendre comment était... Alors à l'époque, c'était pas fabriqué, hein, c'était comment réparer les instruments, comment l'entretenir, pourquoi, comment. Donc j'avais l'âge de 15 ans, et de là, grande affection avec le maître de stage. Et je l'ai embêté de l'âge de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans, où tous les week-ends, j'achetais des vieux instruments dans des brocantes pour pouvoir les restaurer. Et voilà, mais c'était un amusement, en fait. Et sans du tout me douter où ça allait mener et que ça deviendrait par la suite mon métier, parce que moi je voulais être musicien. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à créer mon petit atelier dans le sous-sol de chez mes parents, ici à Brétigny-sur-Orge. Mais voilà, ça avait pas plus de vocation qu'au départ réparer mes trompettes et éventuellement celles de mes copains. Sauf que très vite, celles des copains ont suivi du copain du copain, du copain du copain du copain. Et les gens que j'avais en poster dans ma chambre ont commencé à toquer à la porte pour faire réparer leur trompette. Alors j'étais un peu impressionné. Je me dis, mais ils viennent faire là, pourquoi ils viennent là? Je savais pas trop. Et c'était passionnant parce que j'ai commencé à travailler un peu avec mes héros que j'adorais, échanger avec eux, échanger de savoir comment ils travaillaient. Et j'ai commencé à réparer leurs trompettes. Et puis parallèlement à ça, en plus, moi j'étais étudiant en conservatoire et j'ai eu la chance que mes copains de conservatoire avec qui on a usé nos fonds de culotte au conservatoire à Boulogne-Billancourt avec un super monsieur qui s'appelait Frédéric Prêt. Bah, en fait, mes copains, il y en a un qui est par exemple, on était une dizaine, une grosse dizaine dans la classe. Mais aujourd'hui, il y en a un qui est trompette solo à l'Opéra de Paris, il y en a un qui est trompette solo à l'Orchestre de Bordeaux, il y en a un qui est trompette solo à Toulouse. Et en fait, on était dans une génération bénie, sans le savoir. C'est devenu mes premiers clients, mais c'était aussi mes premiers ambassadeurs qui ont fait parler de moi un peu partout en France. Et de la réparation, ensuite, est devenue la partie vente, parce que j'ai eu besoin de pièces détachées, donc j'ai ouvert des comptes chez les fournisseurs pour acheter de la pièce détachée. De la pièce détachée, j'ai commencé à vendre des trompettes. Et en fait, l'essentielle partie des ateliers de l'époque faisait des cuivres et des bois, mais essentiellement des bois. J'étais un peu le premier à être ultra spécialisé comme ça, dans les cuivres, donc avec une grosse dominante trompette, qui était mon instrument, mais aussi les autres instruments qui sont le trombone, le tuba et le cor. Ça s'est pas mal développé. Ou pendant le confinement, à ce moment-là, on était un peu leader dans cette micro-niche des cuivres, etc. Là, badaboum, on s'est retrouvé sans rien, sans activité. On était non essentiels. La culture était devenue non essentielle. J'ai pris une claque, un peu comme tout le monde, comme en tant que citoyen et puis entrepreneur, artisan. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc du coup, juste un peu avant ça, avant ce confinement, je venais de rencontré personnage mythique, moi qui suis passionné d'histoire de la trompette française, Roger Delmotte, qui avait 90 et quelques à l'époque, qui a 98 ans aujourd'hui. Et j'ai passé des heures et des heures au téléphone avec lui, où en fait mon slogan était « cuivre à la française ». J'avais une cocarde bleu, blanc, rouge, écrit « cuivre à la française ». Mais bon, je me suis dit, c'est rigolo de mettre ça. Je mettais des autocollants pour les boîtes des trompettes de mes clients, mais c'est quoi le sens profond de « cuivre à la française » ? J'ai voulu mieux comprendre avec lui qui avait un grand âge et qui avait été soliste à l'Opéra de Paris. Et donc du coup, en échangeant avec lui, il y a quelque chose qui m'est apparu évident, c'est qu'il y avait un type de son qui avait disparu. Lui, il avait commencé sa carrière... alors déjà, c'est une époque, hein, quand lui était au conservatoire, c'était l'occupation. Donc il m'a narré des choses que j'ai trouvées passionnantes, une tranche de vie et d'histoire complètement folle. En échangeant avec lui, je me suis dit, mais en effet, c'est fou, quand lui était jeune, dans les années 50, il y a un type de son qui était très particulier et qui caractérisait le son français, avait disparu, parce que, on en a parlé dans l'épisode précédent, en fait, la facture instrumentale des cuivres, elle avait disparu en France, alors qu'on avait été leader mondial au début du XXe siècle. Les guerres, c'est vrai que ça n'a pas aidé, hein, parce que pendant les guerres mondiales, le laiton, c'était plus pour faire les obus. D'ailleurs, j'ai interviewé Roger Delmotte, mais j'ai aussi interviewé un personnage qui s'appelle Thierry Kans, qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui était prof au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et qui était le fils d'un trompettiste qui était un copain de classe de Roger Delmotte, qui était un peu plus âgé, qui est décédé, mais que son père lui avait raconté que à la fin de la guerre, quand il avait voulu une trompette, il n'y avait plus de laiton, donc il est allé avec un sac d'obus vide pour les transformer en plaques, et avec, on lui a fait une trompette chez justement ce fameux luthier qui s'appelait Alfred Aubertin à Aubervilliers, qui était un peu le luthier emblématique facteur de trompette de l'époque. Est né ce projet de refaire des trompettes comme dans les années 50, parce que je trouvais que ce son, je l'imaginais, en échangeant avec ce monsieur, je me dis, bah ouais, le son il devait être très brillant. Alors définir un son, c'est ultra complexe parce que c'est très subjectif, c'est un peu parler d'une couleur. Alors là en plus on en parle sans le voir, mais définir un son, c'est super complexe parce que c'est un peu comme le vin, quoi. C'est-à-dire que définir, mettre des mots sur des sensations, c'est toujours très délicat. Et nous, c'est la partie qu'on avait déjà expérimentée avec, en travaillant avec des artistes, quand on répare, c'est une partie passionnante de notre travail. J'ai repris des instruments des années 50 que j'ai reproduits. Le Covid m'a vachement aidé parce que j'avais vachement de temps pour développer ça. Je me suis entouré de trompettistes avec lesquels je travaille régulièrement. Marc Guejon, dont j'ai déjà parlé, qui est trompette solo à l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Et David Guerrier, qui est un grand trompettiste français, qui jouait un peu ce type de trompette-là et qui avait une expérience. Et sans trop savoir où ça allait me mener, je fais cette trompette-là. Et en fait, tout de suite, les gens ont su dans ce petit milieu que je faisais ce type de trompette-là. Et j'ai été sollicité par l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour jouer, pour qu'il joue mes trompettes dans une œuvre de Henri Tomasi, les fanfares liturgiques de Henri Tomasi, à Radio France. Alors, dans une période très particulière, parce que l'activité culturelle n'avait pas repris, c'est-à-dire que les salles étaient fermées, mais l'Orchestre Philharmonique de Radio France faisait des concerts pour qu'ils soient radiodiffusés et qu'il y ait du contenu. J'ai eu une autorisation pour aller prêter mes trompettes dans cette formation et j'étais tout seul dans l'auditorium avec l'orchestre et là j'avais vu mes trompettes résonner et c'était incroyable parce que c'est ça le son à la française et c'était super émouvant pour moi de voir ça. Et puis la chance que j'ai eue, c'est que tous les trompettistes des autres orchestres, ils étaient à la maison et comme ils n'avaient rien à faire, beaucoup ont écouté le concert. Et là, tout de suite, j'ai eu afflux de commandes. J'ai l'orchestre de Bordeaux. Alors, c'était mes super copains à Bordeaux avec qui je me disais, mais c'est super ce son, on n'a jamais entendu. J'ai eu plein de commandes, mais l'appel qui m'a fait le plus plaisir et le plus ému suite à ça, c'est Roger Delmotte qui m'a dit, mais félicitations, je viens d'entendre un son que je n'ai pas entendu depuis 70 ans. Alors, lui, il n'avait pas entendu depuis 70 ans, mais mes copains de conservatoire, on l'avait imaginé, on l'avait fantasmé ce son, mais là, on le découvrait. Donc, c'était vraiment passionnant. Et donc, de là, après, on a fabriqué pas mal de trompettes pour des orchestres. Donc, le premier orchestre, et je la remercie, c'était l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, mais après il y a eu Nantes, Rennes, Lille, Mulhouse, plein d'orchestres. Et ce qui a été passionnant, c'est qu'ils ont joué mes trompettes que moi j'avais imaginé pour la musique française. Je m'explique. En fait, j'avais créé ces trompettes-là en disant, je veux pas remplacer les trompettes américaines. Ces trompettes-là vont servir pour le répertoire français. Mais en fait, les musiciens en le jouant, ils se sont rendus compte que ça marchait évidemment parfaitement bien avec la musique française, mais dans d'autres répertoires, parce que toutes les formations où c'est un peu plus petit, type orchestre de chambre, la trompette française est très adaptée à ça. Et donc voilà, je suis un peu envolé dans mes explications et voilà.
Non mais c'est génial et surtout c'est hyper émouvant.
Mais c'est vrai que oui, que ce qui était ultra émouvant, c'est quand je repense et tout, j'ai l'enregistrement parce que je l'ai gardé évidemment. Quand je l'entends, c'est vrai que c'est assez émouvant de me dire c'était fou, j'étais seul dans cette salle. Et puis en plus c'était en direct et tout et c'est fou, j'avais plein de textos, dire ah putain mais c'est quoi ce son, c'est génial, etc. Et c'est vrai que ça a été un peu la première pierre de mes trompettes. Puis en plus quand je me remets dans le contexte, franchement elles étaient à peine finies quoi, les trompettes. Je m'en souviens dans les tu me demandais des anecdotes, je vais en raconter une avant que tu me le demandes, mais je me souviens que c'était pas fini, donc pendant les pauses, j'allais dans les toilettes rincer les pistons qui marchaient pas et tout, avec le trompette solo, parce que c'était pas fini, c'était encore les protos, quoi. Donc dans les toilettes de Radio France, on rinçait les pistons pour que ça puisse fonctionner, quoi. Donc voilà.
C'est à l'orchestre de Radio France, donc
Philharmonique de Radio France, ouais.
Ok, c'est pas à la Philharmonie.
Non, en fait, il y a plein d'orchestres à Paris, donc les grandes phalanges, évidemment l'Opéra de Paris, mais en fait, il y a deux orchestres à Radio France. Il y a l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France, qui se produit les deux dans Radio France, et à la Philharmonie de Paris, qui est une salle. Là, se produit essentiellement l'Orchestre de Paris et aussi l'Ensemble Intercontemporain et l'Orchestre de Chambre de Paris.
D'accord. Et donc, question, est-ce que nous, en tant que novices, quand on écoute, donc la fameuse trompette dont tu parles, c'est la Alfred, c'est ça ?
Ouais.
Est-ce que nous, quand on écoute la trompette Alfred et qu'on écoute une autre trompette, on est capable de différencier ces deux sons ?
Alors, c'est très subtil. On parlait de vin tout à l'heure, ouais, il faut être un peu connaisseur, mais quand tu connais et qu'on t'explique, oui, tu vas l'entendre, mais c'est surtout pour le musicien. Le musicien, où tu vas l'entendre sans t'en rendre compte, c'est que comme la perce est beaucoup plus petite, il y a un caractère beaucoup plus timbré. Une fois de plus, hein, c'est toujours difficile de définir, de mettre des mots sur un son, mais le voilà, il y aura plus de caractère, il y en a qui appellent ça brillant, clair, etc. Alors, c'est super dur, parce qu'il faut mettre des sons, et quand tu travailles avec un musicien, eh ben, faut mettre des mots, mais faut essayer de comprendre le vocabulaire de la personne que tu as en face de toi, parce que le mot brillant ou clair, il y a des gens, ça va être bien, et d'autres, ça va être péjoratif. Donc, faut comprendre un peu la psychologie des musiciens. Et donc, oui, on peut l'entendre, et surtout que la trompette française, elle est plus facile à jouer. Parce que comme la perce est plus petite, c'est moins physique. Le musicien peut aller un peu plus loin dans l'interprétation, parce que il y a des pièces du répertoire français qui sont un peu, si on les joue sur des trompettes américaines, sont un peu plus grosses. Au-delà de la musique, ce sont des vraies épreuves physiques, où il est compliqué, entre guillemets, d'arriver au bas de l'œuvre, parce que c'est très physique. Avec ce type d'instrument, c'est plus facile, donc tu peux faire un peu plus ce que tu veux. Donc c'est aussi là que ça va jouer.
Ça t'est déjà arrivé de faire un blind test de son ?
Bien sûr, j'ai des petits jeux avec moi-même, c'est que des fois j'essaye de deviner, mais même sur des trompettes, j'arrive à deviner à peu près ce que les gens jouent un peu à l'aveugle, la marque, le modèle et tout. Il y en a que ça fait halluciner, après c'est un peu comme goûter des vins, c'est pareil, hein, tu développes ton oreille. Moi souvent les gens me demandent sur la partie artisanale, c'est quoi ton meilleur outil ? On a des machines, on a des outils, mais moi mon outil c'est mon oreille. La trompette Alfred, comme je disais, c'est un son qui avait disparu, mais je l'avais pensé et fantasmé ce son, mais je savais à peu près où je voulais aller, et c'est guidé par, en effet, par mon oreille, quoi. Donc du coup, j'arrive à deviner un peu qu'est-ce qu'on joue, pourquoi, comment, et puis c'est un truc qui me passionne, quoi.
J'imagine que là, il y a eu énormément de recherches pour retrouver ce son.
Alors, oui, bien sûr. Alors, c'était énormément de recherches, puis c'était un peu vers l'inconnu, parce qu'on savait pas où ça allait nous mener. Mais j'avais quand même une idée assez précise de ce que je voulais. Puis donc, en fait, j'ai repris une trompette des années 50 que j'ai complètement disséquée et remis à la version des années 2020, parce que la technique, évidemment, s'est améliorée. Enfin, la technique, c'est pas qu'on fait mieux qu'avant, mais c'est que les machines numériques nous aident quand même à être plus précis. Après, suite à ça, il y a une trompette, cette trompette-là, moi je travaillais déjà, on en a parlé avec Ibrahim Malouf, il a trouvé le concept super, et donc il dit, mais c'est super, est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse une trompette ensemble ? Et là, on a fait vraiment un travail de recherche pendant une année, de faire une trompette pour lui, et ça a été super long, parce que sur la partie innovation et recherche, ça a été long de ce qu'on parlait tout à l'heure, de comprendre ce qu'il voulait, c'est-à-dire que lui, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait en termes de son, de sensation, il l'entendait, mais il savait pas le définir. Et donc du coup, il a fallu du temps pour comprendre ses envies de qu'est-ce qu'il voulait, et comme au départ on avait du mal à comprendre, c'est plein de tests pour qu'il joue la trompette. Et encore une anecdote, c'est que pour ce développement-là, j'avais fait le pari avec moi-même qu'il la joue à Bercy. Donc il avait un concert qui était prévu il y a quelques années maintenant, c'était en décembre 21, et puis on avançait dans le développement, mais je voyais qu'on était quand même assez loin du truc. Puis novembre arrive, décembre, je dis ouf, ça va pas se faire, bon tant pis, on fera ça plus tard. Et là, une fois de plus, le Covid m'a aidé, parce que il y a eu une recrudescence de Covid, les salles ont fermé, donc à 3 jours du concert, il a dû annuler et reporter, et le concert a eu lieu en avril, et il a commencé à jouer la trompette, et on l'a fini au début d'année 2022. Là, il la jouait, et c'est vrai que les premières notes, en plus ce concert-là était un peu émouvant, parce qu'il commençait vraiment tout seul devant un grand rideau rouge, juste trompette, guitare, puis après ça s'ouvrait, et en plus il y avait la garde républicaine derrière, et les premières notes, je m'en souviens, étaient aussi émouvantes pour moi, parce que j'étais avec mon cousin dans la salle, et de me dire, je me pinçais, je me dis, mais ah, putain, j'ai gagné mon pari, quoi. Mais bon, je l'ai fait tout seul, donc je pouvais pas, mais c'était ouais, une belle aventure. Et c'est vrai que le développement des trompettes, c'est souvent une rencontre, en fait. On le fait comme là, on a parlé tout à l'heure de la garde républicaine, c'est pareil, c'est comprendre la pratique, en fait, à quoi ça sert, qu'est-ce que vont devenir l'instrument, puis comprendre le vocabulaire aussi de ce que je disais, du côté subjectif du son, de ce qu'on développe, etc.
Mes parents vont, je vais tellement leur dire d'écouter cet épisode, ils sont archi fans d'Ibrahim Malouf.
Ah. Et en plus, avec Ibrahim, il y avait ce truc-là qu'on aime heureux de revendiquer ensemble, c'est notre territorialité. On est tous les deux essonniens, en fait, donc il habite pas loin de l'atelier, il a grandi en Essonne, sa grand-mère vivait à Bretigny-sur-Orge, ici. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ce projet-là, quand j'ai fabriqué des trompettes, j'ai dit, bon, va falloir mettre une marque. Et donc, après, elles ont porté mon nom, tu vois. Et alors, je me suis dit, voilà, mais ça paraît mégalo et tout, je vais pas faire. Et en fait, c'est un trompettiste de l'opéra qui m'a dit, mais fais le tour de ton atelier, regarde toutes les marques. Mais toutes les noms de marques, c'est le nom de quelqu'un. Et il dit, par contre, tu regarderas bien, il y a toujours le nom de la ville. Donc, du coup, bah, moi, j'ai mis mon nom et Brétigny-sur-Orge. Mais en fait, ce truc infusé de territoire est devenu vraiment un truc que je revendique ultra fort aujourd'hui. Parce que, bah, déjà, on fait travailler des entreprises brétignolaises. On a deux boîtes qui nous aident dans la conception de la trompette, surtout dans les petites pièces. Mais moi, toute une grande partie de mon réseau est ici de Brétigny-sur-Orge. Et souvent, les meilleurs partenariats, voilà, sont liés à ce territoire-là. Et c'est quelque chose que je revendique aujourd'hui.
Bah, non, mais c'est beau. On se connaissait déjà, mais on s'est vu sur le salon du Made in France, et moi je trouve ça plutôt chouette justement, avant qu'on enregistre t'en parler, tu tiens vraiment à ce concept de Made in France, 100% Made in France. T'es absolument, si je me trompe pas, 100% des pièces sont faites en
alors,
France.
Alors non, c'est pas 100% des pièces, parce que il y a des choses qu'on a des savoir-faire qui ont disparu. Le piston, par exemple, je l'achète en Italie, à la frontière italienne, à quelqu'un qui est à côté d'Aoste, mais c'est quelque chose dont on désespère pas justement, avec notre tourneur local on a le projet d'ici 2 ans de faire nous-mêmes nos pistons. Donc en effet, tous nos éléments viennent de 800 km autour de notre atelier, de plein d'acteurs français. Mais par exemple, j'ai une anecdote aussi encore qui est un peu folle, c'est que quand j'ai fait mes premiers prototypes, on a parlé tout à l'heure du pavillon, des pistons, etc. Mais en fait, par exemple, toutes les pièces là, ce qu'on appelle l'entretoise, j'ai pris ce que j'avais sous la main, des pièces de réparation. Et comme toutes les marques sont américaines, j'ai pris des pièces américaines. J'ai consommé aussi beaucoup de contenu YouTube, podcast sur le Made in France. Et je me suis dit, mais attends, mais ces pièces-là, c'est fait où ? Il faut que j'essaye de faire ça en France. Donc le casse-tête et tout, essayer de trouver un partenaire. Et on me dit, ah bah écoute, peut-être il y a une boîte à 3, ils font ces pièces-là. Donc j'ai pris les coordonnées, j'ai envoyé des pièces, et j'ai dit, est-ce que vous pouvez me faire des pièces de tel type ? Et il me dit, mais ça, c'est des pièces américaines de telle marque ? J'ai dit, oui, bah, c'est moi qui les fais. Je dis, mais ah bon ? Mais donc ça veut dire que moi, ça fait des années que j'achète des pièces à Chicago, mais en fait, elles sont faites à 200 km d'ici. Et cette industrie que finalement, que je pensais morte, elle n'est pas si morte que ça. Et ça a été de relancer aussi des partenariats et de mettre en relation. Et donc c'est de ça dont on parlait tout à l'heure. En effet, j'adore mettre les gens en relation, de dire, mais tu sais que lui, il fait ci, tiens, ça peut t'intéresser pour ci, pour ça. Et donc, ouais, d'être lié à ce territoire-là. Et c'est lié aussi à mon histoire, je trouve, le territoire, parce que le territoire, ici, on est à Brétigny-sur-Orge, et ça, une fois de plus, c'est la banlieue. Et je trouve que quand tu viens de banlieue, moi, je suis un banlieusard, et je suis assez fier de le revendiquer aujourd'hui, mais parce que la banlieue, il y a un truc un peu sale dans la banlieue. Ouais, la banlieue, c'est les cités et tout. Non, la banlieue, il y a plein de choses autres que les cités. Et justement, moi, quand j'étais au conservatoire, les gens, ils venaient un peu de partout en France, et quand tu viens de banlieue, tu viens de nulle part, en fait. Tu viens pas de Paris.
Tu viens pas de province.
Et pour les provinciaux, t'es de Paris, et pour les Parisiens, t'es pas de Paris. T'as une espèce d'identité qui est un peu longue à trouver. Je trouve qu'elle arrive un peu plus tard dans ton émancipation, mais je trouve qu'aujourd'hui, je suis fier de revendiquer ça.
Appel du pied, si vous fabriquez des pistons, voilà. Contactez Adrien.
Voilà.
Parce que potentiellement, vous allez me dire, mais moi, je sais faire. Autre question sur tout ce qui est fabrication. Ça prend combien de temps de fabriquer une trompette de bout en bout ?
Nous, on fait pas une trompette de bout en bout. C'est pas un pulse de chemin sur 206 pièces. C'est pas on commence et puis on finit. En fait, nous, on fait à peu près 2 à 3 trompettes par semaine, mais on fait des toutes petites séries. C'est-à-dire qu'on en fait 3 à la fois. C'est-à-dire qu'on fait sur, quand, par exemple, on se penche sur la première partie de la trompette, ça s'appelle la branche, qui est un puzzle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Et ben, on en fait 6 d'un coup. Puis on les a d'avance, etc. Donc, on fait à peu près 3 trompettes par semaine, une petite dizaine par mois à peu près, en fonction des commandes et ce qu'on a à faire. Puis nous, c'est aussi une nouvelle marque, et donc du coup on a aussi des projets de développement, donc aussi on passe un peu de temps sur les nouveaux projets, recherche et développement, et puis après on accueille les musiciens qui doivent essayer nos trompettes.
Oui, et donc ce que tu racontais aussi, c'est que une partie de ton business, c'est la réparation, et donc la partie luthier. Et donc ça, concrètement, ça se passe comment ?
Ça se passe bien.
Non,
oui, bien sûr, on travaille avec la réparation. Donc,
qu'est-ce qu'on répare concrètement dans une trompette ?
Ouais, non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est un abus un peu aussi de langage de dire de la réparation. C'est plus de l'entretien que de la réparation. La trompette, on envoie de l'air chaud dans du métal qui est froid. Et donc, du coup, il y a de la condensation. C'est pour ça qu'il y a ici une petite clé d'eau pour vider l'eau. C'est pas de la salive, c'est de la condensation. Donc, du coup, cette condensation, elle a tendance à s'oxyder, à faire du vert de gris. Et donc, du coup, faut de temps en temps le nettoyer pour retirer ce vert de gris, pour libérer les instruments qui vieillissent un peu. PME. Donc une grosse partie de ce qu'on appelle nous de la réparation, c'est plus de l'entretien. Après, on a une partie de réparation qui est de la casse, c'est-à-dire que j'ai fait tomber ma trompette, les casser, les bosseler, faut la réparer. Et puis après, on a une partie plus de customisation, c'est-à-dire que les musiciens professionnels souvent me disent voilà, j'ai telle trompette, j'aimerais la modifier pour faire ceci, cela par rapport à ma pratique. Et donc c'est les trois parties de la réparation de notre métier.
D'accord, je vois. Parce que en effet, je pense notamment au boss, tu modifies ne serait-ce que un tout petit peu, enfin j'ai envie de dire le plat, mais la forme de ta trompette, tu vas changer complètement le son.
Oui et non. Alors si tu veux, si tu es la bosse, c'est sûr que si le paillon est complètement écrabouillé, oui. Après une toute petite bosse, ça va très peu influencer sur le son. C'est plus après où ça fait des petites différences. C'est en fait dans la position de telle ou telle pièce qui va changer, mais oui, le moindre petit détail change. Et c'est rigolo. Le mot boss, c'est un des trucs qui m'amuse dans mon travail, parce qu'on travaille ici à Bretigny-sur-Orge les gens viennent de très loin. Donc, tu vois, il y a une carte de France ici, les gens viennent d'un peu partout. Et j'adore le mot boss parce que, en fait, selon les gens, de d'où viennent les gens, ils appellent jamais ça pareil. Tu vois, j'ai un boss sur ma trompette, j'ai un POC sur ma trompette, et donc chaque région a son petit mot et ça me fait marrer.
Toi, tu dis un boss?
Une boss, non, mais une boss, mais tu sais, il y a une boss, un POC, une bigne, j'ai un jeton sur ma trompette, tu vois, chaque truc, c'est un mot qui m'amuse.
C'est vrai. C'est comme la chocolatine.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu veux revenir sur ta relation avec ton métier? J'ai l'impression que tu en as déjà parlé.
Ça, j'en ai déjà parlé. Non, la seule chose qu'on n'a pas parlé, la raison d'être de notre entreprise ici, c'est de redonner un souffle au cuivre à la française, sous toutes ses formes.
Voilà. C'est merci. Une jolie métaphore.
Mais à travers ça, moi j'aimerais, je crois que c'est ta question d'après, de justement, qu'est-ce que je veux pour le métier, etc.
C'est le mot de la fin, ouais.
Ouais, bon, je dirais tout à l'heure.
Garde-le pour la fin. Mince alors, on crée du suspense. Tu nous as déjà raconté pas mal d'anecdotes, mais est-ce que tu veux nous en raconter une autre ?
J'en ai plein des anecdotes. C'est vrai que on vit souvent des situations un peu cocasses dans notre travail, mais une qui était particulièrement, c'est une fois j'ai été appelé en pleine. Alors nous, la période de rentrée, c'est vraiment la période un peu folle parce que il y a tous les conservatoires qui reprennent, donc on a plein de réparations. La période de rentrée, tu peux plus. Enfin, c'est pas que tu peux plus rentrer, mais il y a des instruments partout. T'as l'impression que c'est un autre endroit. On est sous l'eau et j'ai été appelé il y a quelques années plein de rentrées. Ou d'habitude je ne réponds même pas au téléphone, et une dame qui dit oui, bonjour, je suis l'assistante de James Tiré, il y a des instruments à réparer. J'ai dit James qui, on ne connaît pas. Et en fait je me suis retrouvé le lendemain, en fait je dis ah non, je ne peux pas travailler avant, ah mais si, il y a plein de choses à réparer et tout. Je dis vous habitez où? Enfin il habite où? Et en fait il habitait juste à côté d'un conservatoire d'arrondissement qu'il fallait que je livre. Je dis ah bah si, je passe à côté, je passe demain. Et en fait le lendemain je me suis retrouvé dans un appart parisien un peu fou, donc dans une espèce de bureau un peu salle d'attente avec au-dessus de moi je sais pas combien de Molière et quelques César, et je me suis dit, mais je suis où? Et en fait, ce James Tiré, c'est le petit-fils de Charlie Chaplin, et qui est un peu une star du théâtre, qui était en train de créer une pièce sur un peu où il vit avec des créatures, etc. Il a fait une pièce avec des trompettes. Il s'intéressait à ça, je lui ai réparé plein de trompettes, puis on s'est super bien entendu. Je l'ai mis en relation, doublement en relation avec une artiste avec laquelle je travaille qui s'appelle Hélène Escriva, qui a intégré sa troupe et qui a fait toute sa tournée avec lui, et qui a, enfin, je suis super content, ça peut changer sa vie. Et pareillement, plus tard, j'ai Ibrahim Malouf qui me dit hey, j'ai vu que t'as fait un truc avec lui. J'avais créé une trompette un peu géante, un bugle allongé pour ce spectacle-là. Et Ibrahim Malouf, dans son dernier album qui s'appelle Capacity to Love, commence par un discours de Chaplin. C'est moi qui les a mis en relation. Genre, je me souviens qu'elle m'a fait la demande, je les ai mis en relation et je dis, j'ai deux mecs dans mon téléphone qui ont des Césars et genre, je les mets en relation, ça fait bien quoi.
Et c'est trop drôle parce que j'allais te dire, mais en fait, dans ton téléphone, t'as énormément de contacts de gens. Genre, toi, quand on te pose la question de savoir c'est qui le plus connu sur ton téléphone, c'était pas genre là, j'en ai pas, t'es là, quel est le plus connu en fait, il y en a beaucoup trop.
Non, c'est surtout dans le monde de la trompette où j'aime bien. Après, c'est un truc que j'adore revendiquer, comme je disais, les gens viennent de France entière et au-delà de mes contacts, ce que j'adore, c'est qu'ici aussi, cet atelier soit un lieu de rencontre. Moi, j'adore, ça arrive très souvent, qu'il y a le trompettiste de Montpellier qui se retrouve avec le trompettiste de Strasbourg. Ils ont étudié ensemble et la vie ont fait qu'ils ne sont pas croisés depuis 20 ans et ils se retrouvent ici, ils parlent et ça, moi j'adore.
Ouais, c'est trop chouette. T'as pas encore réussi à t'exporter à l'étranger?
J'ai déjà eu des commandes à l'étranger. En Chine, un étudiant qui avait étudié au conservatoire de Lyon m'a commandé les trompettes Alfred. Après, j'ai commencé à avoir de la demande, mais c'est vrai que c'est un endroit évidemment où je veux aller. Mais bon, je prends le temps parce que c'est vrai que déjà, il faut fabriquer toutes les trompettes et un peu fournir ici tous les orchestres en France. Mais on a de tels ambassadeurs avec les trompettistes avec lesquels on travaille que ça va venir un peu naturellement. Puis après, on ira plus tard. Après, cette fameuse trompette Alfred, il faut quand même y aller parce que, quand je dis y aller, c'est à l'étranger, parce que c'est une trompette, il y a besoin d'évangélisation. Parce que, en fait, l'histoire que je vous ai racontée, c'est super, mais comme je disais, moi, mes copains de conservatoire, ils la connaissaient pas, cette histoire-là. Donc, vous imaginez bien que les trompettistes italiens, espagnols et tout, ils connaissent encore moins ça, à moins que ce soit vraiment féru d'histoire des cuivres. Pour faire découvrir ce son-là, il y a vraiment besoin de se déplacer, de faire essayer et d'expliquer, parce qu'en fait, cette trompette-là, elle est comparable à rien, et pour la comprendre, il faut l'expliquer.
Quand t'as un orchestre qui la joue, il n'y a pas un petit bandeau en bas qui dit « Ce sont les trompettes de Adrien Jamilou, Alfred ».
Non, il n'y a pas ça, mais moi, c'est rigolo. Il y a plein d'orchestres. Je guette des fois les réseaux sociaux de « Tiens, il y a telle œuvre qui est jouée » ou « Tiens, c'est telle heure », etc. Mais ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas longtemps... Une fois de plus, avec Ibrahim Malouf, je crois que c'était en janvier dernier, il a joué en soliste avec l'orchestre de Bretagne. Bah, j'étais dans le coin, donc j'y suis allé. Et c'était assez émouvant parce que dans l'orchestre, les mecs jouaient mes trompettes, les Alfred, et lui devant, il jouait sa trompette quart de ton. Et je lui dis, ouais, c'est là, c'est la classe. Enfin, le soliste plus les mecs de l'orchestre jouent les trompettes, donc c'est assez sympa, quoi.
Ouais, c'est sympa. Et justement, j'allais te demander, quand tu fais des trompettes comme ça sur mesure pour Ibrahim Malouf, pour James Tirey, on est d'accord que tu leur fais sur mesure et t'as pas le droit de la répliquer?
Alors, Ibrahim, si, on a créé un modèle ensemble dans l'idée qu'il soit répliqué. Et lui, justement, lui, il veut faire populariser donc son système particulier qui est le quart de ton, qui avait été créé par son papa, qui fait des notes en plus. Donc, avec Ibrahim, cette trompette-là, elle est commercialisée. Après, le charme de cet artisanat, c'est que tous les instruments sont un peu différents. Alors, il y a des gens... qui trouve ça pas bien, mais moi c'est ce que j'adore, c'est que c'est justement on va pouvoir modifier l'instrument pour aller le plus vers ce que les gens aiment, et justement ça fait partie du charme de cette activité, quoi, d'avoir des instruments un petit peu différents d'un instrument à un autre. Puis chaque instrumentiste est aussi singulier et on essaye d'adapter ça, quoi.
Est-ce que tu as des projets futurs ou des envies futures pour toi?
Pour moi, oui, mais plus au global sur les cuivres français, comme je disais, la raison d'être, ça fait très start-up de dire ça, de mon entreprise, c'est redonner un souffle au cuivre à la française. Mais à travers ça, j'ai envie qu'il y ait plein de gens qui fassent ce métier-là. Et moi, je suis pas mal engagé justement avec la CSFI, la Chambre syndicale de la facture instrumentale, l'ITEM, qui est aussi l'école du Mans qui délivre ces diplômes-là. On fait un travail actuellement avec l'éducation nationale pour revoir les diplômes et revoir les programmes pour que les cuivres fassent vraiment à part entière dans cette formation, pour que des jeunes puissent apprendre ce métier-là et que finalement ils se développent, quoi. Moi, mon rêve, c'est que, je disais, au début du 20e siècle, c'était des milliers d'emplois. Alors bon, ça sera certainement pas des milliers d'emplois, mais qu'on soit un peu plus à défendre ça, parce que les pays voisins, je pense à l'Allemagne, dans d'autres types d'instruments, ont ça. Et en fait, j'aimerais, tu disais d'aller à l'étranger, j'aimerais bien d'ici quelques années qu'on voyage en meute française pour aller défendre. Alors, on est une poignée d'irréductibles à faire des cuivres. Alors, moi, je fais des trompettes. J'ai des confrères qui font des trombones. Il y en a d'autres qui font des cors. Et on discute régulièrement. Mais justement, je pense que si on se développe tous ensemble, on peut redonner ces lettres de noblesse au cuivre à la française. Puis faire parler de nous. Et puis, c'est surtout aussi, moi, ce qui me passionne, moi, c'est que mes clients, c'est mes copains. Et c'est surtout un outil aussi pour eux, quoi. Enfin, c'est génial de leur faire des outils pour jouer, mais aussi d'avoir quelque chose de différenciant pour revendiquer les choses. Il y a un truc que je voulais dire que moi, quelque chose qui m'a beaucoup nourri dans le recherche et développement, je reviens un peu aux questions d'avant, mais c'est Guillaume Gibaud du Slip Français qui m'avait donné un peu ce truc-là. Il y a un truc que je conseille à tous les artisans, mais à tout le monde de lire, en fait. C'est un truc qui s'appelle le rapport de la marque France, qui avait été commandé quand Arnaud Montebourg était ministre. Ça explique ce que c'est la marque France versus le Deutsche Qualität ou l'American Dream. Et en fait, ça explique les piliers fondamentaux de la marque France. Alors attends, je vais te le retrouver. Et j'adore ça. Et souvent, moi, je le donne ça à des musiciens, à des copains musiciens. Je dis, mais lis ça. Et je dis, tu remplaces le mot produit par c'est toi le produit. Et quand tu t'exportes, il faut que tu véhicules ça. Et je trouve que dans l'artisanat, c'est génial. Et donc, les trois piliers et les valeurs fondamentales sont l'amour des gestes et des savoir-faire. En deuxième, la vision, la capacité à penser, imaginer et initier. Et trois, l'art de la surprise.
C'est génial.
Ouais. Et moi, j'adore ce truc-là. C'est un peu ma table, c'est sur ma table de chevet. Et tu vois, dans la recherche et innovation, en fait, tous mes projets sont guidés un peu par cet esprit-là, disruptif, tu vois, ce genre de choses. Je fais très start-up. Hein.
Très start-up.
Non, mais justement, amener ces choses-là dans l'artisanat aussi, ces pensées-là et tout. Moi, j'adore dans l'artisanat ça, tradition et modernité, quoi.
Tu sais que j'avais été interviewée et le titre de l'article que j'avais validé, hein, c'était « L'artisan d'art est une start-up ».
Ouais, mais c'est rigolo. Des fois, on peut être compos... Ouais,
mais... on m'était tombé dessus en disant « Mais n'importe quoi, Lisa !» Bah, en fait,
moi, je suis super d'accord avec ça. Après, il y en a, oui, ils n'aiment pas ça, etc. Mais c'est sûr que, toi, tu me disais peut-être dans ton parcours, tu viens de cet univers-là, donc tu le vois d'un autre œil. Mais moi, je trouve ça intéressant de confronter ces choses-là, cette fraîcheur-là. Après, moi, je suis autodidacte, donc c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas ce carcan de pas ce carcan, mais c'est blocage de tête de me dire ah non, on peut pas faire ci ou ça. Mais je trouve moi ça assez inspirant, parce que ces valeurs-là, je trouve qu'elles sont universelles et tu peux le faire dans tous les domaines en fait.
Oui, oui, c'est ça. Et puis en fait, finalement, l'univers startup a peut-être une image qu'on déplore sur certains aspects, mais il n'empêche qu'il y a des façons de penser, des façons de fonctionner qui sont positives, qui sont à prendre. Moi, je trouve une des maximes de la start-up, c'est « fake it until you make it ». Pardon, mais faire semblant jusqu'à ce que tu le fasses. Enfin, j'en connais beaucoup des artisans qui le font, quoi.
Non, mais bien sûr, non, mais carrément, combien de fois en tant qu'artisan et...
Oui,
non, mais bien sûr. Et puis, en fait, tu dis, bon, bah, comment on va faire
Et parce que t'as envie d'avoir ce projet, tu sais, ça va être un beau nom. Et la deuxième maxime qu'on entend beaucoup, c'est le test and learn. Enfin, vraiment, dans l'univers de la startup, je l'ai beaucoup entendu, ça sera toujours plus cher de penser pendant des années et de lancer un jour son produit que de lancer, de voir comment il est pris par le marché et de s'adapter. Il y a plein d'artisans avec qui j'en ai parlé, je leur ai dit, mais c'est pas parfait.
Mais non, ça ne le sera jamais.
Comme ton Alfred, quoi. Enfin, non, genre, ça, elle n'est pas parfaite.
Ça ne sera jamais, mais c'est le fait de la confronter, en effet, aux gens. Puis, j'ai écouté un radioscopie d'André Malraux la semaine dernière, et il parlait justement des artisans et de l'art, et il disait que ce n'est pas aux artistes d'expliquer leurs œuvres, en fait, c'est à l'humanité de l'expliquer. Mais c'est un peu pareil, c'est un peu, c'est ton produit, c'est les gens qui l'utilisent qui vont t'expliquer à quoi ça sert, et ce n'est pas à toi de le penser, et puis du coup, c'est toi qui vas. Ces retours-là vont te permettre de l'améliorer.
Ouais, je plus sois. Je voulais revenir sur la partie formation parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Le fait qu'aujourd'hui, tu sois obligé d'avoir des actions dans l'éducation nationale pour un peu défendre la formation de ce métier de facteur de cuivre spécialisé en trompette.
Ouais.
Tu me racontais que dans la formation, donc à Nantes, c'est ça ?
Au Mans.
Au Mans. Tu me racontais que donc c'est cuivre et bois et qu'en fait, les bois représentent 90%.
Bah voilà, parce que comme on disait, en fait, c'est dû à l'industrie qui est beaucoup plus forte. Alors, qui est dû à deux choses. La première, c'est que l'entretien, déjà, des bois au quotidien demande plus d'entretien. Il y a tous des petits tampons et tout à changer. Donc, dans un atelier standardisé, j'ai envie de dire, d'instruments à vent, bah, il y a plus ça à faire. Et puis, il y a encore une grosse industrie. Après, moi et d'autres, on a pas mal bousculé les lignes parce que quand moi je suis arrivé, j'étais le seul à faire les cuivres. Donc, quand j'ai ouvert des comptes chez les fournisseurs, bah, j'étais un espèce de troublion parce que, en fait, pour avoir les comptes, il fallait avoir des flûtes, des clarinettes et tout. J'ai dit, ah, moi, est-ce que les cuivres? Et, il y a eu plein depuis de gens qui sont ultra spécialisés. Il y a des ateliers à Paris qui font certains quasi que du cor, d'autres que de la flûte traversière, d'autres que de la clarinette. Ils deviennent ultra spécialisés dans ce petit domaine. Cette évolution fait qu'en effet, les choses ont besoin de bouger. Et pour pas trahir notre discussion qu'on avait, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Et je trouve que à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est un programme qui a été mené par la ministre de la Culture et Olivier Grégoire des PME, qu'on fait à tout un programme qui s'appelle Métier de demain. Et je trouve ça très vrai. De l'intelligence artificielle, d'avoir ces métiers-là manuels qui reprennent sens et puis les gens ont besoin de sens et ces métiers-là, pour moi, font sens.
Je suis totalement d'accord et je pense que les artisans sont sans doute ceux qui ont le moins peur de l'intelligence artificielle dans notre monde actuel.
Ouais, complètement.
Je reviens sur un sujet que tu as abordé sur l'arrivée du numérique dans ton métier et le fait que ça avait un peu fait évoluer ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ?
Bien sûr. Alors, il y a deux choses qui ont évolué. Déjà, c'est juste la mécanique de précision par le fait, c'est, je parlais de machines numériques, en fait les CNC, les machines qui servent voilà, à tourner des pièces, sont bien plus précises que des machines manuelles qui ont les outils qui s'usent, enfin tout un tas de choses fait qu'aujourd'hui bah, les instruments sont mieux qu'à l'époque, c'est pas qu'ils sont mieux fabriqués, c'est juste que bah, par exemple la tolérance entre le piston et sa chambre de piston, elle est vraiment au plus fin. Par exemple notre trompette française, notre trompette Alfred, elle est encore mieux que les trompettes de l'époque, mais c'est pas parce que c'est nous qui la faisons, c'est parce que la mécanique de précision est tellement fine que c'est plus facile à jouer, c'est plus juste, etc. Mais aussi dans ces domaines-là, en effet aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de copier des pièces. Alors copier ou s'inspirer, c'est qu'aujourd'hui on a des machines par exemple comme des scanners 3D qui te permettent de scanner des pièces et ça te fait un plan. Et aujourd'hui on arrive même par exemple à imprimer du laiton. Nous sur le projet qu'on a fait avec Buffet Crampon, qu'on leur a conçu des trompettes, on a imprimé du laiton et c'est une innovation géniale parce qu'en fait imprimer du laiton, ça te permet déjà, t'imagines aujourd'hui on parle de RSE, ce genre de choses, il y a beaucoup moins de pertes de matière, mais en plus de ça, pour le prototypage, si ça marche pas, t'en fais pas une petite série de 100 qui marche pas, quoi. Et c'est génial, et on peut faire plein de choses grâce à la technologie, et c'est passionnant de faire des tests sur ce genre de choses.
Et ça, tu le fais avec une imprimante 3D?
Il y a des imprimantes, on bosse avec une boîte qui est à Saint-Etienne, qui nous imprime du laiton, et en fait, c'est un des caractéristiques de la trompette qu'on a fait avec justement avec Buffet Crampon, parce qu'on est revenu sur des trompettes un peu comme les Alfred, des trompettes avec des plus petites perces, et le fait d'imprimer en 3D fait qu'il y a aucune tension, alors c'est un peu technique, mais quand on met les pièces en assemblage, et ben elles tombent parfaitement, ce qui fait qu'on les soude juste comme ça, sans aucune tension, et qui fait que l'instrument est plus libre. Pour la trompette, c'est plus libre et c'est mieux pour la conception, quoi.
C'est génial. Mais moi j'adore. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en off, tu expliquais que ces projets, tu les as financés grâce à une subvention, c'est
ça ? Je l'ai su. Alors moi j'ai eu plein de prix et de subventions. C'est ce qui a amené d'ailleurs un peu de médiatisation sur mon projet. Au départ, c'est la CMA qui m'a mis le pied à l'étrier de ça avec le programme Star et Métier. Ils ont un petit concours et j'avais été lauréat. Puis en fait, comme c'était sponsorisé par la Banque Populaire, j'ai vu qu'il y avait la Fondation des Métiers d'Art de la Banque Populaire. Je me suis inscrit. J'ai été lauréat. De là, j'ai vu qu'il y avait d'autres fondations et j'ai eu plein de choses. Puis de fil en aiguille, j'ai vu que bah il y avait tout un tas de petits concours et ça m'a aidé. En fait, ça m'a vachement aidé. Alors déjà évidemment sur la partie financement, parce que en effet ça t'aide d'avoir des financements. Donc notamment la BPI qui m'a eu une autre subvention qui s'appelle InnoVup, mais aussi ça m'a vachement aidé sur pitcher mon projet, quoi. Enfin on parlait de start-up, moi je venais pas du tout de cet univers-là. Mes potes que j'ai, c'est des trompettistes, donc parler de trompette à des trompettistes, c'est facile. Mais parler de trompette à un béotien, faut se faire comprendre, l'expliquer et ça m'a énormément aidé parce que quand tu vas parler à ta banque, quand tu vas parler à n'importe qui, tu sais expliquer pour qui, pourquoi, comment, et ça m'a vachement aidé là-dedans. Je suis parti aussi d'un super programme que je conseille à tous les artisans, d'art ou non, mais souvent c'est savoir-faire d'exception. De BPI, ils ont un programme qui s'appelle l'accélérateur savoir-faire d'exception. Donc ça, c'est un programme de 18 mois où en fait, il y a une quinzaine d'entreprises qui sont sélectionnées par le ministère de la Culture et l'INMA et la BPI pour accélérer notre activité. Et puis en fait, c'est un espèce de jet d'inspiration, de voir d'autres métiers, de s'inspirer toutes les technologies et les innovations de chaque métier, bah, tu peux t'en inspirer. Et puis pareil, de ces gens-là qui sont aussi artisans, t'expliquer ton métier, ça te confronte, de dire tiens, c'est vrai que quand j'en parle comme ça, ça résonne. Moi, ça m'a beaucoup aidé et c'est assez vivifiant de vivre dans cet écosystème.
Et parce que, en fait, moi, la sensation que j'ai, c'est que oui, il y a plein d'artisans qui aimeraient y avoir accès, mais ce qui est lourd, c'est le dossier.
C'est lourd, le premier, tu sais pas, faut le faire. Moi, il y a plein de gens qui disent ah putain, c'est génial, t'en gagnes plein et tout. Mais oui, mais je vois pas que les trois quarts, tu les perds en fait. Mais par contre, quand tu perds, c'est super intéressant d'aller toquer à la porte, de dire excusez-moi, je me suis présenté, j'ai pas été pris, pourquoi ? T'apprends plus que quand tu gagnes. Hein. En effet, c'est un espèce de gymnastique et souvent quand tu te confrontes à ça, tu te rends compte que y a une espèce de ligne, pas éditoriale, mais une ligne artistique de tel ou tel acteur et il faut rentrer dans cette ligne et donc t'adaptes ton projet. Tu le travestis pas, c'est juste tu l'expliques différemment par rapport à qui tu t'adresses. Et en fait, c'est une gymnastique d'esprit qui t'aide dans ton activité, je trouve.
Ouais, je comprends. Ça t'oblige à te poser.
Ouais, complètement. Tu vois, aujourd'hui, je peux parfaitement te dire c'est quoi la raison d'être de mon entreprise. Ça, je l'ai fait grâce au programme de la BPI en disant oui, bah en fait, c'est quoi ma raison d'être et donc moi je la connais, faut que mes collaborateurs la connaissent. Mais par exemple, moi je viens de raconter mon parcours. Moi, mon parcours c'était au départ, je voulais faire musicien. Donc, moi dans ma tête, je connaissais le parcours de musicien. Et via le programme de la BPI, on était dans une école de commerce, ils nous ont mis des jeunes étudiants confrontés à nos boîtes d'artisanat d'art. Est-ce que, mais pourquoi vous ne travaillerez pas dans cet univers-là ? Alors, il y avait une confrontation aussi un peu de génération. était intéressante parce que dans l'accélérateur, il y a des gens de 30 à 60 ans. Je suis rendu compte que quand je voyais les jeunes d'école de commerce parler de comment ils imaginaient leur carrière dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je me suis rendu compte que même moi qui forme des apprentis qui me posent la question d'aller à l'éducation nationale refaire les programmes, je me suis même moi-même rendu compte que, en fait, moi, le seul cadre que je connaissais, c'était celui de musicien. Et en fait, les gens que je recrutais, ils n'allaient pas faire musicien, ils allaient fabriquer, réparer des trompettes. Ça m'a permis de me remettre en question et de poser des cadres et un cadre de travail. Enfin,
de sortir de ta bulle.
De ma bulle, en fait, complètement. Parce qu'en effet, moi, dans ma vie perso aussi, je baigne là-dedans. Ma femme, elle est trompettiste. Mes copains, c'est que des trompettistes. C'est vrai que toutes ces rencontres m'ont fait sortir aussi de cet univers-là et de le confronter à un autre univers qui est passionnant aussi.
Je comprends. Que souhaites-tu pour le futur de ton métier ?
Ce que je souhaite pour le futur de mon métier, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'à travers le travail qu'on fait en revoyant les programmes et puis en espérant de créer des vocations, qu'on soit demain beaucoup plus nombreux à faire ce métier-là et relancer cette filière qui avait disparu, mais relancer ce concept des cuivres à la française. Donc c'est ce que je souhaite à mon entreprise, mais à mon secteur de manière plus générale.
Oui, que ça redevienne tout un écosystème et que justement, comme tu disais, aujourd'hui il y a des choses que tu ne peux pas produire en France. C'est clair que c'est un sujet qu'on a énormément abordé dans le cadre du podcast, mais moi ce que je dis aux gens qui ne sont pas du tout de l'artisanat, c'est en fait en consommant artisanat, vous ne donnez pas de l'argent à un artisan, vous donnez de l'argent à tout un écosystème. Parce
bien
que
sûr.
Si vous achetez de la céramique, vous permettez à un artisan de s'acheter de la terre et potentiellement des émaux, et des émaux, à force d'avoir des céramistes, ben il y en a de plus en plus de Français qui vont demander des émaux français, des émaux équitables. Ben, moi le sujet que je connais le mieux, et j'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est le sujet des souffleurs de verre, où aujourd'hui, dans les matières premières du souffleur de verre, donc il y a les ballottes qui sont en fait la couleur du verre pour les souffleurs de verre, il existe 2 entreprises dans le monde et elles sont en Allemagne. Et s'il y en a une qui ferme, il y a des couleurs qui disparaissent. Et donc forcément, acheter à un souffleur de verre, c'est permettre à un souffleur de verre de vivre, et donc à un souffleur de verre de s'acheter des ballottes, et ainsi de suite.
Bah, moi, c'est ce qui me passionne aussi dans l'histoire des cuivres à la française. Quand je dis au XXe siècle, au début, il y avait des milliers d'emplois. Mais en effet, c'est les emplois qui en découlent. C'est-à-dire que tous les accessoires qui vont avec l'instrument de musique, souvent, il est vendu avec une boîte. Et bah, la boîte, elle était forcément fabriquée dans le quartier. D'ailleurs, dans les quartiers de Paris, ils sont façonnés comme ça. Il y avait, vers le bassin de l'Arsenal, à Bastille, c'était les ébénistes, parce que le bois arrivait par là. Donc, les villes ont été aussi façonnées par cela. Mais en effet, si on reprend, par exemple, en achetant mes trompettes, on fait vivre le petit tourneur qui est à côté de chez moi et qui fait pas une note de trompette. Mais ce qui est génial aussi, c'est que à travers ces échanges-là avec lui, par exemple au salon du Made in France, moi, en racontant mon aventure, je raconte ça, c'est que mon voisin au salon du Made in France l'an passé, cette année, c'était 1083, les jeans. Une collaboratrice de 1083 a trouvé mon projet super et s'est mise à la trompette. Et ça, je trouve ça mais génial. Elle n'avait jamais trop entendu parler de trompette et s'est mise à la trompette. Donc j'adore en fait, à travers les histoires et les rencontres, pouvoir créer forcément des vocations, mais au moins une activité et que les gens se posent des questions, quoi.
C'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur ce sujet, mais on en a parlé en off, et de la discussion qu'il en ressort ensemble, c'est t'as vraiment participé à créer des écosystèmes à Brétigny-sur-Orge, mais ailleurs. Enfin, j'ai l'impression en effet que c'est ce qui te caractérise, la mise en relation, mais
ouais,
ça,
c'est vrai, souvent
ça va plus
les gens,
loin que ça,
ouais, les gens souvent disent ça, t'es fort pour mettre les gens en relation. Et c'est rigolo, avec BPI, là, ils te font un espèce de diagnostic de boîte, ils interviewent des clients, et en interviewant des clients, des solistes et tout, il y en a un qui a dit quelque chose que je trouve intéressant, c'est que, en parlant de notre entreprise, il a fait d'un point faible au départ d'être à Brétigny-sur-Orge une force, parce que aujourd'hui, les gens connaissent, ça fait rayonner mon petit territoire de Brétigny-sur-Orge, la mairie, le département sont fiers d'avoir cet écosystème-là ici à Brétigny-sur-Orge. Puis je trouve que quand tu fais ce genre d'achat, quand tu vas voir un artisan d'art, je trouve que le voyage fait partie un peu de l'aventure de ton acte d'achat ou non, mais de ton expérience du moins.
Ouais, c'est clair. Eh bien écoute, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Adrien pour son temps.
Merci à toi.
Et puis je te dis à bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce deuxième épisode avec Adrien vous aura plu. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.